Bonsoir. Les 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante pour auditer avec indépendance son fichier électoral ont officiellement publié les conclusions de ce travail hier lundi. Il ressort de cet audit que sur plus de 47 millions de personnes enrôlées brutes, plus de 3 300 000 électeurs ont été élagués du fichier, ce qui ramène le nombre total à presque 44 millions d'enrôlés. Et parmi les personnes élaguées, il y a plus de 2 235 798 doublons et presque 1 million de mineurs. Quelle analyse faire du rapport de cet audit externe du fichier électoral de la CENI? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, en sigle également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AETA en sigle. Jérôme Bonceau, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Donat, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix, Radio Okapi.
Également ce soir dans nos débats, Luc Loutala, bonsoir.
Et bonsoir Monsieur Guimaté, bonsoir.
Dona Madimba ce soir, Luc Loutala, vous êtes chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simocel en sigle. Et enfin Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Alain Lomanja, bonsoir. Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir, Dona Madimba, et bonsoir à tous les auditeurs.
À tous donc, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. Les 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante, il y en a des internationaux et des nationaux, pour auditer avec indépendance son fichier électoral ont officiellement publié les conclusions de ce travail hier lundi. Il ressort de cet audit que sur plus de 47 millions de personnes enrôlées brutes, plus de 3 millions d'électeurs ont été élagués de ce fichier, ce qui ramène le nombre total à presque 44 millions d'enrôlés. Et parmi les personnes élaguées, il y a plus de 2 millions de doublons et presque 1 million de mineurs, ici de Jeff Ngoy.
Comment, dans ces jours, ce travail d'audit externe a été réalisé, contrairement à la mission de l'OIF? On n'est pas venu pour dormir, mais pour travailler. Nous sommes experts en la matière, répond la présidente de l'équipe, Elizabeth Taylor, dont les propos sont traduits par un autre membre.
You are the entire team.
Toute l'équipe que nous formons comprend des gens qui ont plusieurs années dans le domaine électoral. Pour nous, il n'y a pas lieu de dire quelle est la durée idéale. Si nous avions eu beaucoup plus de temps, peut-être que nous aurions pu aussi dormir. Avions-nous besoin de dormir un peu plus ou plutôt nous avions besoin de faire le travail?
Il faut maintenant bâtir le capital de confiance par une intense communication devant rassurer les parties prenantes au processus, recommande la mission à la CENI.
Nous avons aussi fait quelques observations et recommandations en rapport avec l'amélioration de la communication et nous faisons aussi des recommandations en matière de renforcement de la confiance du public dans le système.
Ces experts félicitent la CENI pour le travail abattu et louent la technologie utilisée, Megamature, qui a permis de détecter les failles du processus et de les corriger sans attendre.
Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées en RDC, AETA. Jérôme Bonceau, malgré des assurances que nous venons entre autres d'écouter, hein, des auditeurs présentés comme indépendants pour cet audit externe, les suspicions n'ont pas totalement tari dans l'opinion de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez confirmer à l'opinion que selon votre monitoring, cet audit est bel et bien un audit externe valable et crédible?
Merci, Monsieur Donat. Merci. Je salue mes co-débatteurs, amis de la société civile, Monsieur Luc et Alain. Et pour répondre à votre question, nous disons que quand on fait l'audit, tout d'abord, une petite historique de l'audit externe. L'audit relève de la planification tant stratégique qu'opérationnelle que la Commission électorale nationale indépendante a pu faire pour, dans un délai temps critique compressé pour la tenue des élections dans le délai. Et on doit s'interroger pour répondre à votre question. Est-ce que la mission d'audit externe du fichier électoral menée par les 5 experts internationaux, 5 experts étrangers et nationaux, et ça répond au double objectif. Le premier objectif, et cette mission a répondu à ce qu'elle a travaillé, elle a procédé par l'analyse tant quantitative que qualitative des données du fichier électoral, afin de renforcer la confiance, la transparence, l'intégrité et la crédibilité dans les procès électoraux. Ça, c'est le premier objectif sur lequel nous sommes posés la question. Et le deuxième objectif consistait à ce que, est-ce que l'audit externe du fichier électoral, et ça a tenu compte de l'intégrité et l'inclusivité des données collectées à la lumière des instruments et normes et standards internationaux. À ces deux objectifs, nous pensons que la mission des 5 experts ont pu accéder sur l'outil sur lequel portait la mission d'audit externe du fichier électoral. Et la mission a pu passer au niveau des centres nationaux de traitement des données pour accéder au serveur central. C'est le serveur central qui contient les données. Et la mission s'est posée aussi la question, selon la, vous avez dit, la mission a travaillé dans 5 jours. Parce que nous sommes rendus compte que la mission a pu recourir à une approche méthodologique de travail basée sur l'efficience et l'efficacité et la rapidité avec les outils qu'ils ont utilisés. Et les 5 jours ont suffi pour arriver à ces résultats. Et cela nous disons que, étant donné que la Commission électorale nationale indépendante a travaillé sur base des normes et standards internationaux en recourant au logiciel, capable de détecter les doublons contenus dans plus de 500 millions d'électeurs en un temps bref. Et nous pensons que le travail, la mission d'audit externe menée par les 5 experts a atteint l'objectif de dire oui, le fichier électoral, après avoir parcouru toutes les différentes étapes, après avoir recours au logiciel nécessaire, après avoir arrivé à dégager ce que nous venons de voir, les doublons, les enfants mineurs, tout en sans oublier que lors de l'audit des élections de 2018, je faisais partie comme témoin de la mission d'observation, comme observateur de la mission d'audit de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui était conduite par le général à la retraite, général Sankaré. Et on a pu constater que lors des élections précédentes, on avait décelé 80% de toutes les provinces avaient enregistré des enfants mineurs. Et aujourd'hui, on vient de voir le nombre de mineurs qui étaient décelés dans le fichier de l'ordre de l'audit du fichier électoral. Nous avons vu qu'il y a eu quand même une certaine amélioration de sorte qu'on a décelé et afin de rendre le fichier électoral potable et fiable. Parce que il faut se poser aussi la question, dans quel environnement électoral cette mission d'audit externe a pu travailler?
Jérôme Bonsoir, vous gardez la parole, mais nous avons aussi, en préparant cette émission, cherché à avoir l'avis d'autres experts électoraux de la sphère du domaine électoral. Et une partie de ces observateurs et experts ont estimé que le travail effectué par les 5 experts n'est pas, à leurs yeux, proprement un bon audit externe, parce que notamment, elle n'a pas procédé, cette étude, ou il n'a pas procédé, cet audit, à une refonte des données de l'enrôlement en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous réagissez par rapport à cette autre critique?
Leur critique allait être fondée si la mission des 5 experts de l'audit externe du fichier électoral n'avait pas accédé au serveur central de la, qui est le, de la commission électorale indépendante.
Ah, c'est entre autres. C'est entre autres un de leurs arguments, Jérôme Bonceau. Ces observateurs-là, ou cet expert-là particulièrement, estiment que les auditeurs, les cinq auditeurs externes du fichier électoral de la RDC, ceux qui viennent de donner leur publication, n'avaient pas accédé aux données indépendantes de la CENI et n'ont pas bénéficié de la possibilité de faire une refonte étant donné que le temps était très réduit, 5 jours.
Quand on fait l'audit externe du fichier électoral, on recourt aux instruments qui sont les logiciels parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une mission d'audit externe puisse se transformer en un tourisme électoral, loin de là. Parce que s'il n'accédait pas, cette mission n'accédait pas aux données contenues au serveur central et elle n'accédait pas au logiciel avec lequel la CENI a travaillé, à ce moment-là, on allait être d'avis avec les collègues.
Mais Jérôme Bonceau, est-ce que vous avez les preuves que ces auditeurs ont bel et bien eu accès à toutes les données et ont pu faire leur travail de manière indépendante et pas orientée?
Oui, je suis d'accord. Je vous dis que la première rencontre, j'ai eu la chance de rencontrer la mission des 5 experts de l'audit du fichier externe du fichier électoral. Et je leur ai parlé. Est-ce que vous aurez accès au serveur central? Est-ce que vous aurez accès au serveur backup de la CENI? Est-ce que vous aurez accès au logiciel? Est-ce que vous aurez accès à l'adresse IP pour accéder aux données contenues, aux données consolidées contenu par la commission électorale indépendante? Et la mission étant menée par les spécialistes et les techniciens en cette matière, ils ont affirmé et ils ont pénétré là. C'est là où ils ont pu découvrir autant d'éléments. C'est là où, dans les recommandations, comme toute mission d'audit exige, à ce qu'on puisse, après avoir analysé et exigé les choses, arriver à déceler les forces et les faiblesses contenu dans cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Donc, s'ils n'avaient pas fait ça, on n'allait pas qualifier ça d'une mission d'audit externe. On allait qualifier ça autrement et on allait conclure que cette mission n'a pas pu atteindre le double objectif que je parlais au début de mon intervention. C'est pourquoi nous disons que nous avons cru et nous sommes persuadés que la mission a fait ce travail et c'est de là la mission est arrivée à faire la conclusion selon laquelle que le fichier électoral de la commission électorale indépendante est fiable, n'est pas corrompu, il contient toutes les données consolidées et après le toilettage des doublons et des enfants mineurs et des radiés.
Merci Jérôme Bonceau. Luc Loutal a chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Pour vous, les 5 experts ont fait un travail acceptable, crédible ou pas?
Il faut se dire qu'il y a plusieurs problèmes que soulève cette question des 5 experts. Hein. D'abord, la nature même des auditeurs. Ensuite, on va voir quel est l'objet qui a été audité. Troisièmement, vous avez pu le remarquer, les recommandations ou les résultats de l'audit lui-même. Donc, il faut prendre les 3 paramètres. Si on prend le premier paramètre, quelle est la nature des auditeurs? Alors, on parle d'un audit indépendant. Ceci veut dire qu'il y a une structure ayant personnalité juridique qui engage cet audit. Dans le cas d'espèce, on a plutôt des personnes que la CENI a recrutées, des personnes pêle-mêle. Des personnes ont été recrutées, comme vous le savez, à la vitesse de croisière, sans aucune observation indépendante de tout le processus. Et déjà, on a observé que le processus de recrutement des individus, il faut souligner que ce sont des individus recrutés par la CENI et il n'y a pas une structure indépendante spécialisée dans l'audit qui serait venue auditer.
Luc Loutala, est-ce que pour vous, des personnalités ne peuvent pas avoir le crédit égal à des structures?
Il va falloir se poser après la question, qui engage cet audit? Qui supervise. Donc, au bout de compte, on va trouver que c'est des personnes qui ont reçu une mission de la CENI et qui dépendaient de la CENI. Et donc, il va falloir voir dans quelle mesure il y a indépendance de cette mission. Donc, le premier problème qui est soulevé par cette mission d'audit, c'est même la nature même de l'audit. Il n'y a pas un organisme indépendant comme tel spécialisé en audit.
On vous a entendu, vous aurez préféré une structure à la place des individus.
C'est pas une préférence, c'est la nature de l'audit qui doit être.
C'est un échange. Ces personnes, la CENI a présenté leur identité et leur profil. Nous, par exemple, en préparant cette émission, nous avons pu lire quand même quelques lignes des 5 personnes. Il y a, selon les éléments obtenus de la CENI, ces personnes ont, au bout de l'analyse de leur profil, une certaine expertise dans l'audit et dans la formation électorale. Vous mettez en doute leur capacité à faire ce travail.
En fait, il n'y a pas une personne morale qui aurait audité ou qui va répondre de l'audit en dehors de la CENI.
D'accord.
Ça, c'est la première évidence. Oui. Ça veut dire, quelle est la personne morale qui répond de l'audit? Il n'y en a pas.
Vous l'avez dit,
c'est les missionnaires. Deuxième chose, c'est l'objet de l'audit. Qu'est-ce qui devait être audité? Ce qui devait être audité, c'est le fichier électoral final de la CENI. À l'évidence, quand on lit le dernier communiqué de la CENI, ce qu'on présente comme audit du fichier électoral, c'est fait dans un contexte où la CENI elle-même n'avait pas encore présenté son fichier comme tel. On n'a pas su quel était le fichier auquel la CENI est arrivée. Et c'est le fichier auquel la CENI serait arrivée qui aurait été soumis à l'audit. Ici, lorsqu'on regarde tel que les choses se sont passées, on est un tout petit peu perdu, on se pose la question, mais où est le fichier de la CENI et où est le fichier audité? Parce qu'en définitive, la CENI elle-même aurait dû faire tout ce travail de centralisation, de consolidation, d'adjudication, de nettoyage du fichier, et ensuite elle aurait soumis son fichier à elle, à un audit, pour certifier.
Bon, ça, Luc Moutala, oui. Vous parlez au conditionnel, mais est-ce que vous aviez été vous-même sur place? Est-ce que vous avez demandé à accompagner ces auditeurs pour aussi les contrôler, aussi pour avoir le cœur net après la publication de leurs résultats?
Alors, on va revenir après parce que c'est des recommandations que nous avons faites à la fois publiquement et de toutes les façons à la CENI pour qu'il y ait plus de communication et de dialogue, ça veut dire de participation des parties prenantes.
On aimerait avoir ce débat en espérant que les arguments que les uns et les autres avancent s'appuient sur des choses qu'ils ont vues ou des choses qu'ils peuvent vérifier et présenter à l'opinion.
Là, oui, quand vous parlez au conditionnel... Je reviens sur les principes, là on est encore sur les faits.
Allez-y.
Je ne suis pas encore sur l'analyse.
Allez-y.
On est sur les faits c'est... on est perdu, on ne sait pas où est le fichier de l'audité, donc des auditeurs eux-mêmes, où est le fichier de la CENI. On a l'impression que c'est le même fichier, finalement il y a une totale confusion entre le fichier de la CENI et le fichier audité. Donc manifestement l'audit a eu lieu au moment où la CENI était aussi en train de finaliser et il y a eu une énorme confusion pour savoir quel est le fichier qui a véritablement été audité. Alors, maintenant on arrive aux résultats. Le troisième pilier où on peut regarder les choses, ce sont les résultats. Les auditeurs arrivent à un résultat, c'est 47 millions plus ou moins sur les 49 qui étaient attendus, avec les 3 millions et quelques qui sont élagués, et la CENI est totalement d'accord avec ça. Mais l'audit en question ne répond pas aux problèmes majeurs que posait le fichier électoral, des problèmes qui ont été soulevés par les missions d'observation et par les parties prenantes. Deuxièmement, on arrive aux recommandations des auditeurs, quel que soit tout ce qu'on a dit. Ils appellent à plus de communication et à plus d'action pour créer la confiance autour de la CENI. Bon, voilà un tout petit peu les conclusions et que vous avez diffusées tout à l'heure d'ailleurs. Donc, vous comprendrez, je ne prends que les faits tels qu'ils se déroulent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les auditeurs, en fait, ils ne font aucune recommandation sur le travail que la CENI devrait faire pour que dans l'avenir, on ait un fichier plus fiable.
Luc Loutala, permettez-nous d'avancer. Je vous ai écouté et j'ai réagi et puis vous allez certainement éclairer nos auditeurs. à écouter les conclusions de nos auditeurs. Ils ont audité le nombre des enrôlés, ils ont élagué les flous avec les doublons, etc. Et ont détecté les mineurs. Même s'ils ne le disent pas de cette manière-là, il semble que pour eux, le fichier est tout à fait crédible et ne souffre pas de crédibilité. Il n'y a pas, selon eux, nécessité de donner des conseils pour rendre quelque chose crédible alors qu'il est déjà, selon eux. C'est pour ça qu'ils donnent d'autres types de recommandations comme quoi, pour eux, il y a crédibilité, les gens peuvent faire confiance à ce fichier, mais maintenant, pour qu'il y ait plus suspicion, il faut qu'il y ait plus de communication et qu'il y ait consensus entre les parties prenantes. Est-ce que ce n'est pas logique comme aboutissement?
Alors, il y a une faiblesse dans l'argumentaire de ces dames et de ces messieurs, parce que pour que eux ils puissent certifier de la crédibilité du fichier électoral, la mission devait donner des réponses sur les problèmes majeurs que soulevait le fichier électoral. Les problèmes majeurs, notamment, on a trouvé des kits d'enrôlement dans les mains des particuliers, donc on ne sait pas exactement comment est-ce que les personnes qui ont été enrôlées en parallèle au circuit officiel de la CENI, comment est-ce que ces fichiers qui sûrement ont été, qu'est-ce qu'on a fait de ces personnes qui ont été enrôlées? On a tellement des documents, d'images qui ont circulé où on enrôlait des enfants, on faisait des enrôlements à domicile. Et donc, les auditeurs, en fait, ne donnent aucune réponse sur les questions capitales que soulevait la constitution du fichier primaire.
Et donc, merci Luc Loutala, nous continuons le débat avec vous, le temps de faire réagir aussi Alain Lomanja. Alain Lomanja, analyste des questions électorales, de tous ces débats, quel est votre avis?
Alors permettez-moi d'abord de commencer par saluer les co-débatteurs et aussi les auditeurs. Et je voudrais dire aussi d'entrée de jeu que je partage presque tout ce que Monsieur Luc a dit, parce que je trouve qu'il fait une très bonne analyse de la situation post-audit du fichier électoral. Et moi, personnellement, je voudrais dire que ma première observation, c'est en fait un constat. Et ce constat, c'est comme le disaient presque tous les observateurs indépendants avant le début de l'audit, en fait, d'audit externe du fichier électoral, nous avons eu affaire à un audit interne, ou pour mieux le dire, à un parachèvement de l'audit interne de la CENI par quelques personnes, quelques experts qui ont été invités par elles-mêmes. Parce que déjà, ces auditeurs-là, on sait qu'ils ont travaillé dans un contexte, un environnement très problématique. Que ce soit leur sélection, que ce soit l'environnement du travail, que ce soit les délais qui leur étaient impartis, rien ne pouvait faire penser qu'il s'agirait d'un travail d'audit externe vraiment, vraiment crédible. Eux-mêmes étaient limités dans leur travail par les termes de référence qui avaient été édictés par la CENI. Et donc, on pourrait dire qu'ils sont entrés dans le livre Guinness des records de l'audit le plus court du fichier électoral. Mais qu'est-ce que cela nous apporte sur le plan de la qualité? Et c'est pourquoi je voudrais insister sur quelque chose que Luc a déjà dit. Je crois que ce à quoi on a assisté, c'est que les auditeurs ont présenté les conclusions des travaux de consolidation du fichier électoral.
Alain Lomanja, on n'aura pas tout le temps de vraiment aller dans tous les détails. On va épingler l'essentiel. Quand vous reprochez à cet audit de manquer de qualité, est-ce que vous pouvez donner deux ou trois exemples?
Je peux peut-être commencer par des choses assez simples.
Non, allez-y directement à ça, sinon on n'aura pas le temps pour aller à l'essentiel.
Mais justement,
allons-y sur la question de la qualité. Qu'est-ce que vous reprochez comme défaut de qualité à cet audit?
Dans le calendrier électoral, il était prévu que la CENI commencerait au 31 décembre 2022 le travail de consolidation du fichier électoral. Et ce travail consistait aussi à la détection des doublons et des mineurs.
Ça a été fait.
Vous avez les conclusions,
ça a été fait dans cet audit.
Travail-là.
Cet audit a parlé des doublons et des mineurs.
Mais nous ne parlons pas de la même chose. Et si vous voulez écouter, nous allons peut-être vous amener à comprendre les subtilités de ce travail-là. Il y a un travail de détection des doublons qui a été commencé par la CENI depuis la fin du mois de décembre. Et ce travail-là, ce sont les conclusions du travail interne qu'on fait porter
aux auditeurs venus et présentés comme des auditeurs venus pour l'audit externe du fichier électoral.
Mais c'est justement sur ces questions, Alain Lomanja, c'est quand même trois personnes, j'imagine qu'ils ne se connaissent même pas, il y a trois Congolais dedans, et même s'ils se connaissaient, cela ne serait pas un problème, il y a trois Congolais dedans, et il y a trois étrangers dedans, les profils présentés à l'opinion ont présenté leur parcours et leur élément de connaissance par rapport aux données. Est-ce que, à votre niveau, vous avez d'autres éléments qui contesteraient leur compétence à faire ce travail? Si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'on est tout à fait d'accord que ces gens ont qualité et peuvent le faire. Pourquoi leur audit ne serait pas acceptable?
Donna, si vous voulez que le débat soit transparent, donnez-vous aussi le temps d'écouter les autres et de ne pas peut-être interrompre quand quelqu'un essaie d'avancer une argumentation.
Cher Alain, on n'a pas tout le temps, vous le savez, et nos auditeurs ont des préoccupations précises pourquoi ils aimeraient que les gens disent c'est bon et pourquoi ils aimeraient que les gens disent c'est mauvais. Mais vous avez la parole, allez-y donc.
Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Dites-moi, en écoutant les experts qui ont travaillé à l'audit externe du fichier électoral, quelle est la part des doublons qui avaient été détectés par la CENI et quelle est la part des auditeurs? Est-ce que vous pouvez faire la part, faites part dans les rapports que vous avez entendus, combien de doublons avaient été déjà détectés par la CENI avant leur arrivée et combien les auditeurs externes ont pu détecter? Parce que par le passé, c'est comme ça que ça s'est toujours fait. Il y a, comme en 2018, il y avait déjà 6 millions de doublons ou d'éradiés par la CENI, et quand l'OIF est venu pour l'audit du fichier électoral, ils ont radié moins de 500 000. Faites-moi la part, si vous avez ces données-là, de ce qui a été fait par la CENI elle-même, par le travail
donc de consolidation. Donc, selon vous, il manque la clarté notamment dans les doublons d'avant et ceux des auditeurs externes.
On ne connaît ni la méthodologie de la CENI, ni la méthodologie des experts. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont travaillé. Il n'y a pas de transparence dans ce travail-là. Notre frère Jérôme, qui a parlé au début, là, il a fait partie, me semble-t-il, des personnes qui avaient été invitées comme des observateurs de ce processus-là. Est-ce que lui-même peut nous parler de leur rapport d'observation du travail d'audit du fichier électoral? On a invité des personnes, on a invité la CIME, on a invité, je crois, aussi les gens de la nouvelle société civile. Et tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont publié leur rapport d'observation de ce travail d'audit du fichier électoral? Ça veut dire qu'il y a un problème majeur de transparence dans ce travail-là.
Alain Lomanja, nous vous gardons dans ces débats et nous avons ouvert notre standard pour faire réagir le public. Puisque vous avez la parole, cher Alain, nous allons écouter pour vous et vous allez réagir ce commentaire qui nous vient de cet auditeur Rémi.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Les rapports de l'audit externe du fichier électoral tel que présenté et rendu public par les experts nationaux et internationaux paraît à mon avis vrai. Car dans plusieurs bureaux d'enrôlement, on a connu les cas d'enregistrement des mineurs et des doublons suite à une mauvaise campagne des politiciens voulant à tout prix augmenter le nombre de sièges dans leur circonscription électorale. Mais ce rapport est loin d'être consensuel, car jusqu'à présent, la CENI avec ses animateurs font toujours l'objet de contestations par la classe politique de l'opposition et une partie de la société civile dont l'Église catholique. Le plus important à ce stade serait tout d'abord de chercher à dégager un consensus autour des animateurs de la CENI avant d'attacher à l'étape de vote de la loi sur la répartition des sièges afin d'aboutir aux élections libres, démocratiques et apaisées.
Analyste des questions électorales, Alain Lomanja, votre commentaire?
Alors, l'affirmation de l'auditeur commence par le verbe paraître. Donc, je trouve que lui-même n'est pas 100% sûr de ce qu'il est en train d'affirmer. Ensuite, il dit qu'il y a des doublons et des mineurs. Et c'est évident qu'à chaque audit du fichier électoral, on parlait des doublons. C'est d'ailleurs pourquoi on parle des opérations de dédoublonnage. Et on parle aussi des mineurs qui sont inscrits. Les deux éléments que l'auditeur évoque n'apportent rien pour qualifier le travail des auditeurs comme étant vrai ou crédible par la suite. Je voudrais peut-être donner un élément de réflexion qui peut nous aider à avancer dans ce débat-là. Par exemple, en 2018, autour de 40 millions d'enrôlés, un peu plus, et on a pu avoir plus de 6 millions de radiés. Et cette fois-ci, nous avons 47 millions d'électeurs potentiels enrôlés et nous nous retrouvons avec moins de 3 500 000 personnes radiées. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est la qualité du travail qui a été améliorée ou c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de bien faire ce travail-là?
Merci Alain Lomanja. Nous reviendrons à vous pour faire les conclusions de ce débat. Luc Loutal a chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL en sigle. Pour vous, il y a aussi cet auditeur Patrick Kassongo-Niembwe qui nous appelle depuis Mbujimaï mais qui n'a pas pu lui-même enregistrer de sa voix son commentaire. Je vous le lis donc. Cher Luc, il dit déjà à ce stade, il faut saluer le travail abattu par les experts en nous produisant ce rapport d'audit. Ça nous a permis de comprendre l'œuvre humaine est toujours entachée, je lis tel qu'il a écrit, des imperfections et certaines irrégularités qui, une fois dénichées, nous permettent d'améliorer les autres conditionnalités à venir. Qu'à cela ne tienne, je pense que la CENI n'a plus droit à l'erreur et qu'elle comprenne qu'elle a maintenant l'intérêt du travail en toute transparence avec les parties prenantes à ce processus, que la CENI comprenne qu'elle doit à chaque étape sensible de ce processus chercher à écouter les avis des uns et des autres avant de se décider comme organe souverain et technique en la matière. Voici ce commentaire de Patrick Kassongo-Niembwe. Votre réaction, Luc Loutala?
Alors, à la fin, il dit tout ce qu'on peut, on pourra trouver comme conclusion, ce à quoi on a toujours appelé la CENI, c'est que la CENI doit comprendre qu'elle est un organe qui doit écouter les uns et les autres. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas le fichier électoral, c'est quoi l'importance du fichier électoral. Le fichier électoral, si vous voulez, c'est le coffre-fort de la légitimité. C'est le coffre-fort de la légitimité. C'est celui qui contient en fait les acteurs qui ont pouvoir de conférer le pouvoir et la légitimité. Et donc c'est une opération terriblement stratégique et sur laquelle on a toujours appelé que la CENI construise le consensus. Bon, nous trouvons, nous, tout à fait, que cette audite du fichier électoral avait une importance capitale pour la CENI, qui était celle d'amener les parties prenantes qui contestent l'enregistrement des électeurs et tout ce qui s'est passé avant. C'était vraiment l'occasion que la CENI soit convaincante et que toutes les parties prenantes se disent « Oui, nous sommes d'accord que ce fichier qui est publié, c'est le véritable fichier. » Et c'est pour ça que cette audite devait non seulement faire l'objet de beaucoup de participation de parties prenantes, mais beaucoup d'un grand consensus. Et il est totalement étonnant maintenant, il est totalement étonnant que même l'opération d'audit du fichier électoral n'a pas créé le consensus. Voilà un tout petit peu.
Oui, oui, vous aurez encore la parole pour probablement nous donner votre dernier ressenti sur les perspectives à venir. Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées en République démocratique du Congo, AETA. Vous allez aussi nous donner votre avis après l'écoute de cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
C'est Fariel Malacha depuis Kinshasa. Cet audit du fichier électoral possède beaucoup d'imperfections, malgré l'écart de l'OIF, car en voyant les nombres d'enrôlés et les nombres de personnes élaguées, ceci justifie la simplicité de la CENI durant le processus d'enrôlement jusqu'à ce stade actuel que nous sommes arrivés. Les 47 millions d'enrôlés bruts ne révèlent pas la réalité constatée sur le terrain pendant l'enrôlement, parce que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs de nos compatriotes n'ont pas eu les cartes d'électeurs. Mais d'où nous viennent ce genre de chiffres et un nombre important d'électeurs élagués?
Jérôme Bonso, votre avis?
Oui, j'ai dit à mon compatriote de Kinshasa que quand on fait un travail de ce genre, l'opération d'identification d'enrôlement, il y a ce qu'on appelle les électeurs attendus. Il y a une fourchette qui est donnée et les électeurs qui ont été effectivement enrôlés. Donc, de ce côté-là, le chiffre de 47 ne peut pas l'inquiéter. Mais ça fait partie de l'opération de l'enrôlement et identification des électeurs. Mais ça craint de quoi? En quoi consiste la crainte des uns et des autres dans ce processus, dans cet exercice de l'audit externe du fichier électoral? Tout en sachant, la CENI elle-même l'avait dit, à son temps, que l'audit externe du fichier électoral n'est pas une exigence légale. Quand bien même elle n'est pas légale, mais la CENI a tenu compte, elle aurait déjà tenu compte, et il a tenu compte de deux concepts électoraux. Le premier concept, c'est l'intégrité électorale. Et le deuxième concept, c'est l'éthique électorale. Et quand vous venez le contenu de ce concept d'intégrité électorale, qui se définit comme la qualité des élections, qui adhère aux normes, aux standards universels des élections, et pour éviter, sans lesquels il faudrait, on peut passer par pour éviter la fraude électorale. Et l'éthique, vous dit, c'est l'ensemble des valeurs et l'éthique. Le deux concepts donnent les atouts à ce que le travail mené par les auditeurs externes et la Commission électorale nationale indépendante vont concourir à ce que le fichier électoral, à ce que le processus électoral puisse être crédible, que le puisse créer la confiance des uns et des autres.
Jérôme Bonso, mais que répondriez-vous par exemple à ceux qui soupçonnent que une espèce de rapprochement des résultats entre l'audit effectué par la CENI elle-même et l'audit effectué par les 5 auditeurs de la semaine dernière, que cette ressemblance soit comme juste du saupoudrage? Que répondriez-vous à ces personnes qui s'inquiètent encore?
Je pense que peut-être ils n'ont pas eu le temps d'accéder aux ressemblances, aux doublons détectés par la mission des auditeurs externes. Peut-être c'est là qu'on n'a pas présenté. Mais quand on fait une mission d'audit, tant interne, externe, ça ne peut pas manquer.
L'émission Dialogue entre Congolais ce soir a débattu sur les résultats de l'audit externe du fichier électoral de la RDC, audit effectué la semaine dernière. Nous sommes donc en train de conclure cette émission. Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. À État, avec cet audit, la CENI regarde déjà l'avenir. Vous avez entendu vos deux autres co-débatteurs de ce soir s'inquiètent d'une absence de consensus entre parties prenantes. La CENI, elle, regarde déjà vers la loi des circonscriptions électorales à finaliser et aussi la date de la réception des candidature pour les législatives à publier. Est-ce que la CENI doit, après constat quand même que le consensus total n'est toujours pas réuni pour ce processus électoral, est-ce que la CENI va s'arrêter un peu pour tendre la main aux parties prenantes et créer ce consensus, ou bien la CENI est orienté définitivement vers l'avenir et c'est aux autres de la suivre, même si, en fin de compte, les élections vont avoir lieu avec des tensions et une absence de consensus?
Mais le consensus s'acquiert dans le travail, lors des opérations, comme la CENI vient de publier maintenant, les statistiques et des électeurs enrôlés. Et tout le monde a vu la transmission des électeurs enrôlés par province. Et tout le monde se reconnaît dans ces statistiques. Quand vous prenez aujourd'hui certaines provinces, dont je félicite le gouverneur des animaux de ces provinces, qui ont fait une percée dans la mobilisation des électeurs pour l'enrôlement. Quand vous prenez une province qui, dans le temps, ne parvenait pas à avoir cette performance, par exemple le Grand Kassai, le Kassai central, où cette fois-ci, il veut une percée d'être parmi une première province parmi les 5 provinces de l'espace Grand Kassai. C'est le travail abattu. Et quand on voit les statistiques que la CENI a présentées, et tout le monde se retrouve que le travail a été mené sur le terrain, et maintenant l'étape qui vient, c'est la répartition de la loi sur la répartition des sièges.
Et est-ce que, le fait que
comme des ingrédients,
Jérôme Bonso,
de la transparence du processus électoral.
Et est-ce que le fait que justement l'espace Kassai enregistre cette année beaucoup plus d'enrôlés que dans les cycles passés, est-ce que cela n'est pas une matière à crier à la tricherie selon vous?
Oui, on crie à tricher si on n'a pas de données collectées. On crie des choses quand il y a l'absence de données collectées. Quand vous prenez le travail qui s'est fait dans d'autres provinces, dans le nord, dans d'autres provinces qui ne sont pas de l'espace du Grand Kassai et d'autres provinces, le travail s'est fait. Parce que les leaders de ces provinces, les leaders politiques et associatifs, sont descendus pour battre campagne, pour que les uns et les autres puissent se faire enrôler. Ce qui n'était pas le cas pour
les cycles passés. Merci, Jérôme.
Les cycles passés, c'est pourquoi nous disons que cette performance, il faut vraiment féliciter
la CENI pour
ceux
ça.
Qui ont fait ce travail. Nous pensons que nous pouvons nous attendre à un procès électoral crédible dont le fichier électoral vient d'être déclaré fiable.
Merci, Jérôme Bonso. Luc Loutal, a chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL en sigle. Vous avez mis en avant, selon vous, toujours cette absence de consensus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute des autres parties prenantes qui, depuis le début du processus électoral en République démocratique du Congo, ne sont d'accord avec personne et avec rien?
Ben écoutez, nous, en tant qu'observateurs, nous regardons les choses qui se passent en rapport avec là-bas, en rapport avec les standards internationaux et ce qu'on appelle les principes directeurs. Et nous ne jugeons pas des intentions, donc nous regardons vraiment les faits. Le fait est que le cycle électoral ici, tel qu'il est, il a réussi à briser tous les fondements du consensus. Et donc chaque opération, on le rappelle, depuis la mise en place de l'équipe de la CENI, la loi électorale, et donc maintenant l'enregistrement des électeurs et maintenant le fichier électoral.
C'est tout ça qui conduit à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas mauvaise foi manifeste et très ancrée des autres parties prenantes qui n'acceptent rien?
Nous ne pouvons pas dire que tous les autres parties prenantes soient des saints, mais la responsabilité de gestion du cycle revient à la CENI. C'est la CENI qui en fait, implique, c'est la CENI qui est l'organe de gestion. On ne peut pas appeler les autres, les partis politiques et autres, à venir gérer les opérations avec la CENI. On peut appeler la CENI à appliquer les principes de participation, d'inclusion, pour rassurer les autres parties prenantes et créer la confiance. Si on regarde, la CENI n'a pas réussi à créer la confiance, la CENI n'a pas réussi à créer le consensus, et donc même l'opération d'audit du fichier électoral, bon, si on peut dire un audit, ce qui est appelé audit, n'a pas réussi à créer le consensus, mais continue à diviser, et ceci nous fait terriblement craindre que le cycle et la suite des opérations et même les résultats. Parce que si déjà on conteste le fichier électoral, qui est l'opération la plus stratégique, à part les scrutins, nous ne voyons pas à quel moment la CENI va réussir à créer le consensus et nous pensons qu'on est parti pour un cycle très très dangereux et il faut le craindre, à moins que les gens ne se rattrapent.
Merci Luc Loutala. Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Vous aviez jusqu'ici été presque tout à fait d'accord avec Luc Loutala dans son analyse. Est-ce que il est possible que le processus s'améliore ou il est complètement déjà abîmé et il n'y a rien à attendre du tout?
On ne peut pas préjuger des activités qui ne sont pas encore réalisées, mais là, on observe les activités qui sont déjà réalisées et on se rend compte que les conditions de transparence ne sont pas réunies. Et c'est cela qui pose problème, parce qu'aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser après cet audit du fichier électoral, c'est de savoir si le fichier de 2023 est exhaustif, inclusif et fiable. Et nous n'avons pas de réponse à cette question-là. Parce que le travail qui a été mené dans les conditions que nous connaissons très bien. Il a été bâclé et on a relevé le fait qu'il n'y a même pas de, d'observation ou de recommandation technique par rapport à ce que nous avons entendu dans les médias, parce qu'on n'a pas encore lu tout le rapport détaillé, mais il n'y a pas de recommandation technique. On fait des recommandations d'ordre politique. Qu'est-ce que ça veut dire que des experts venus faire un travail technique d'audit du fichier électoral et qui se contentent des recommandations politiques? Ça, c'est un sérieux problème.
Merci à tous les deux, Alain Lomanja, mais aussi Luc Loutala et Jérôme Bonceau, pour votre participation à cette émission. Bab Milandou et Guy Maté m'ont aidé à préparer le dialogue entre Congolais de ce soir. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.